Bon, merci. Je remercie les deux intervenants de ce soir pour la richesse de leurs exposés. Alors, le temps que vous prépariez vos questions, je suis sûr, vont être très nombreuses. Moi, je vais essayer d'en poser peut-être d'abord une à Claire. Je remarque d'abord sur la référence, dans votre commentaire, la référence à Newton que fait Lacan quand il annonce son hypothèse. Vous dites très bien que que la découverte de Newton démontre le réel comme impossible. Et un peu plus loin, je vous cite, vous dites « Le savoir ne se soutient qu'à se présenter comme impossible ». J'aime beaucoup cette formule. Alors, sous une forme de joke, je vous demanderais, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que Newton était lacanien ? Et puis, il me semble que la part centrale, plus importante de ce passage que vous avez commenté, c'est que Lacan nous présente deux définitions du signifiant. Je veux dire, comme à la séance précédente, j'avais commenté, il y avait deux définitions de l'inconscient. Là, il y a d'un côté le signifiant qui représente un sujet pour un autre signifiant, on le connaît, d'où la série S1, S2 et donc la quête du sens. Et puis, le signifiant en lui-même, comme le nomme Lacan. Un signifiant qui est donc pure différence. Et à partir de cette définition, chaque signifiant, comme vous l'avez dit, est un et diffère de tous les autres, de tous les signifiants. Donc, si je comprends bien, c'est parce que dans la langue, le signifiant est à l'état de pure différence, qu'il affecte le corps et donc la jouissance, et que du coup, un sujet s'engendre et que le signifiant commence à représenter le sujet. Moi, je voudrais poser une question sur une phrase de votre intervention, quand vous parlez de l'inconscient versant du sens et l'inconscient versant hors sens. La phrase. Voilà. Vous dites à un moment, s'il y a un dialogue possible dans la cure, au niveau de la langue, c'est celui que l'analysant met en acte avec son invention ou sa trouvaille. C'est sur cette notion d'invention ou de trouvaille que je voudrais vous demander, est-ce que vous les mettez sur le même plan, l'invention et la trouvaille? Est-ce que la trouvaille, ça ne serait pas plutôt au niveau de l'élucubration, de donner du sens, certes avec un gain thérapeutique qui n'est pas à négliger, mais qui ne déboucherait pas forcément sur un savoir-faire que vous évoquez par ailleurs? C'est-à-dire donc, est-ce que invention et trouvaille, c'est pareil? À Bernard, nominé, moi j'ai trouvé très intéressant votre développement sur l'articulation des contraires chez Freud. En fait, vous nous présentez un Freud précurseur de la langue sans le nommer. Enfin, sans la nommer, hein. Vous donnez même donc cet exemple avec cette suite Madeira, Materia, Mater, où Freud nous décrit l'émergence d'un savoir sans sujet, avec donc cette notion que dans l'analyse, il y aurait quelque chose à inventer. Vous montrez bien que l'inconscient est lucubre, fabrique des mythes, produit éventuellement des délires, mais il n'invente pas. Il s'agit dans l'analyse de permettre l'émergence d'une invention de savoir, donc du côté du réel, car c'est le savoir qui invente. Alors, seriez-vous d'accord pour dire que Lacan, à la fin de son enseignement, donne un terme que vous ne citez pas, enfin vous ne nommez pas, le symptôme, le statut d'invention, dans la mesure où, à la fin de la cure, le symptôme est de l'ordre de l'invention? Le savoir-y-faire avec son symptôme, dont parle Lacan, implique, il me semble, une invention permettant une solution inédite propre à chacun. Donc, le symptôme est-il du côté de l'invention? Puis, j'ai une deuxième question. Si dans la majeure partie de votre intervention, vous interrogez donc l'invention, je pourrais dire, en intention, dans la cure, il me semble qu'à la fin, il y a la question de l'invention peut-être en extension. Quand vous dites « il est urgent », c'est une phrase forte, de continuer à inventer en psychanalyse.
Inventer la
psychanalyse, pardon, oui. Alors, c'est comme ça que je l'ai entendu. Est-ce que vous voulez dire qu'on n'invente plus dans les écoles de psychanalyse? Est-ce que, par exemple, moi, ça m'a... Je sais pas, c'est un exemple, hein, les citations de Lacan, qui sont des fois nombreuses, voire excessives dans certains textes, lors d'interventions de certains collègues, est-ce qu'on peut considérer que ça serait un frein à l'invention? C'est-à-dire, est-ce que trop de citations tuent l'invention, pour le dire rapidement? Et donc, je vous pose la question, comment faire ou quoi faire pour relancer l'invention? Voilà, c'est les deux questions. C'est ce que j'ai cru entendre dans votre intervention.
C'est très bien, parce que vous avez entendu les termes que j'ai fait exprès de ne pas citer.
Très bien, alors.
Donc je passe... Ils sont là dans leur fonction logique.
Je passe d'abord la parole à Claire.
Oui, oui.
Hein, peut-être pour...
Si j'ai encore de la parole.
Si, bien sûr.
Alors, je ne sais pas si ce que Newton dirait de Lacan, je ne sais pas si Newton était lacanien, mais ce qui est sûr, c'est que Lacan s'est fait newtonien pour l'occasion. Ensuite, je suis assez d'accord avec votre remarque sur un contresens ou en tout cas peut-être un abus de langage, c'est-à-dire si je reprends la trouvaille et l'inconscient, enfin la trouvaille et l'invention, moi je ne les rends pas antinomiques l'un de l'autre dans le travail de la cure, dans la mesure où il me semble que trouvaille ou invention, que ça vienne du côté du symbolique ou que ça vienne du côté du réel, ça ne me paraît pas le problème. C'est vrai que dans la phrase où je les situe, si je les vois dans la cure, dans la phrase où je parle essentiellement de l'inconscient langage, je suis très, très impressionnée par votre écoute. Effectivement, j'aurais pu garder uniquement le mot d'invention. Disons que je les mets dans le travail de la cure et dans la phrase et pas dans l'inconscient langage. Voilà, oui, je suis d'accord.
D'accord. Bernard ?
Oui. Je peux m'immiscer dans le débat. Parce que je pense que vous avez opposé, et je suis d'accord là, plus qu'avec la trouvaille, vous avez opposé l'invention à l'élucubration. Hein? Alors, je pense que Claire serait d'accord avec ça. L'élucubration, c'est pas tout à fait du même ordre que l'invention. L'élucubration, quand... Enfin, en tout cas, c'est très dépréciatif, l'élucubration, quand Lacan utilise ce terme-là. Ce que je pourrais dire, oui, c'est frappant de en même temps c'est normal, c'est-à-dire que si on manipule, si on articule les signifiants de façon correcte, à la limite on pourrait se passer de les nommer. Alors que si on répète des phrases qu'on ne sait pas articuler, on n'entend plus rien. Et là, ce qui est frappant, c'est que vous avez entendu tout ce que j'ai évité de dire. J'ai évité de le dire tout simplement parce que je n'ai pas le goût de répéter les choses, mais l'important, c'est que ça y est, effectivement. Et donc, on a bien l'idée de ce que c'est, de ce fait-là, qu'une articulation logique, et qui est autre chose qu'une élucubration. C'est pour ça que je vous remercie pour votre lecture. Alors, bien sûr, la langue, évidemment, mon propos a été de chercher si dans Freud, on avait une idée de quelque chose comme ça, Et je crois que oui. Je crois que oui. Et ce qui est formidable, c'est de voir que après qu'il ait fait d'abord qu'il y a ce truc-là, qu'il découvre tout de suite, qu'il appelle contre volonté. Ensuite, il va faire l'hypothèse que c'est l'inconscient qui peint, etc. Mais n'empêche que c'est toujours là. C'est toujours là. Donc ça veut dire que c'est très identique à ce que Lacan souligne de la langue et de cette articulation première. Alors j'ai eu, juste avant de partir, j'ai regardé ça parce que c'est très intéressant. C'est dans le séminaire 17, je ne peux pas vous dire exactement la page, mais Lacan donne exactement, dans le séminaire 17, c'est à propos du maître. Il dit, il donne exactement les deux définitions. Alors, ça ne veut pas venir, évidemment.
C'est l'envers.
Oui. Alors, il parle de... je vais revenir sur ce qu'il faut entendre par le signifiant maître en partant de ce que nous avons avancé à ce propos. Au départ, assurément, il n'y en a pas. Tous les signifiants s'équivalent, en quelque sorte, pour ne jouer que sur la différence de chacun à tous les autres, de n'être pas les autres signifiants. Un, premier niveau d'articulation. Mais c'est aussi par là que chacun est capable de venir en position de signifiant maître, très précisément en ceci que c'est la fonction éventuelle que de représenter un sujet pour tout autre signifiant. Donc c'est, pour moi, cette phrase est très précieuse, parce qu'elle montre ces deux niveaux d'articulation du signifiant. La deuxième, évidemment, elle ne nous gêne pas. Quand on a accès à cette articulation, tout va très bien. Et on oublie la première. On oublie la première. Et c'est ça l'histoire de Freud. Comment une vie saine est possible ? Ben justement parce qu'on oublie que quand on dit blanc, il y a noir qui est accroché à blanc, etc., etc. Et donc, dans la clinique, on trouve des états où cette association n'est pas éteinte par celle du sujet représenté par un signifiant pour un autre. Et dans les pathologies les plus graves de la schizophrénie et de l'autisme, on a exactement ça. On a des gens qui n'utilisent pas le signifiant pour être représenté auprès d'un autre signifiant, mais qui sont complètement agités par l'automatisme de la langue. Je pense que c'est un fait clinique qui est totalement irréfutable. Et c'est très... Pour moi, ça a été très amusant de découvrir qu'on lit ça dans Freud. On lit ça dans Freud. Alors, cette invention du saint homme, c'est sûr que c'est une invention qui tient, justement. La démonstration de Lacan, c'est qu'on ne fait pas saint homme avec n'importe quoi. Ce n'est pas avec une élucubration. C'est avec un point précis dans la structure. C'est-à-dire que ça ne peut marcher que si c'est fondé sur une logique, et une logique en général réglée au papier millimétré. Et quand on voit... je suppose que tout le monde a fait un peu l'expérience de ça, mais quand on voit des sujets psychotiques qui sont venus nous voir pendant longtemps et où il s'est passé quelque chose d'important qui les a stabilisés, on voit qu'il y a eu une invention, et cette invention, elle n'a pas été du fait de l'analyste, elle est du fait du patient, mais il faut que l'analyste soit à la bonne place pour entendre que sur ce point-là, il va pouvoir s'appuyer pour aider un sujet à faire le nœud. Donc, c'est sûr que c'est de l'ordre, pour moi, je suis tout à fait d'accord, le saint homme, c'est de l'ordre de l'invention. Alors, quant à ce que l'envoi à la fin de mon texte, moi, je crois beaucoup, oui, je crois qu'il faut absolument, il faut maintenir ce niveau d'invention, et pour essayer de contrer, je vais le dire, façon équivoque, exprès, pour essayer de contrer la répétition. La répétition est mortifère. Mais c'est pas facile. C'est même d'une exigence monumentale. Comment ça peut arriver? Je crois que c'est pas forcément le fait d'une école d'analyse, c'est l'analyse de chacun qui doit décoller chacun de la répétition pour le faire accéder à un peu d'invention. Enfin, il n'y a que ça qui compte et c'est ça qui soigne. Hein? Ah ben dans l'acte, il y a certainement, oui, il y a certainement dans l'acte, il y a de l'invention.
Alors, c'est bien, vous avez eu le temps de commencer. C'est sympa. Patrick Barillo.
Alors, c'est une question à Bernard sur cette question de l'invention du savoir dans la cure. J'ai comme idée que dans la, si on se réfère au savoir dégagé par la cure, il n'y a rien à inventer. Et que l'invention qui concerne le savoir est du côté du savoir du psychanalyste. Alors quand je dis qu'il n'y a rien à inventer, c'est pas moi qui le dis, il me semble, c'est Lacan qui dit que question en ce qui concerne le savoir de l'inconscient est déjà là. On avait commenté dans encore une phrase qui va dans ce sens-là, c'est page 96, où il dit « Tout indique, c'est là le sens de l'inconscient, non seulement que l'homme sait déjà tout ce qu'il a à savoir, mais que ce savoir est parfaitement limité à cette jouissance insuffisante que constitue qu'il parle. » Donc là, il dit que ce qu'il y a à savoir pour l'analysant, par rapport à l'inconscient, est déjà là. Donc, c'est à découvrir, à déchiffrer. En revanche, c'est pas la même chose pour le psychanalyste dans sa... Donc là où il doit faire œuvre d'invention, certainement, puisqu'il dit le savoir du psychanalyste, c'est pas du tout cuit. Je crois que c'est dans la troisième ou dans la note lettre aux Italiens, il dit quelque chose comme ça. Donc là, il indique clairement qu'il y a un effort d'invention à faire pour pouvoir sortir quelque chose de nouveau. Donc la question que je te pose, après vous avez parlé de l'invention du symptôme, c'est certainement que le symptôme est une invention du sujet, mais c'est pas un savoir à proprement parler, le symptôme. C'est pas le symptôme n'est pas un savoir sur l'inconscient. Donc la question que je te pose, c'est quand tu parles d'invention de savoir dans la cure, qu'est-ce que tu cibles exactement ?
Alors, il faut que tu lises le séminaire Les non-dupes R. Hein, il y est question tout le temps, du savoir comme invention.
Que Lacan lui-même produit sur la psychanalyse.
Il parle de ça, mais si tu le lis, tu verras qu'il parle du savoir à inventer, mais c'est un savoir très particulier. C'est ce qu'il appelle le savoir réel. Hein? C'est pas le savoir tiré du déchiffrage. Hein? Il parle de ce savoir réel comme quelque chose qui est de la pure logique. Et il dit l'inconscient est logique. Hein? Ce qui est vrai, on le remarque, ça. Donc, cette invention de savoir, si je ne me trompe pas en lisant les non-dupes, je pense que ce n'est pas uniquement l'invention de savoir faite par Lacan. C'est quelque chose qui vaut pour tout un chacun. Mais c'est très difficile de dire, de le présenter comme ça, parce que bon, moi je l'ai peut-être par facilité, parce qu'il était tard quand j'ai fini d'écrire cette chose-là hier soir, mais j'ai glissé du côté du savoir-être là où on ne peut pas se savoir-être, hein, puisque c'est une définition. Quand on croit y être dans l'inconscient, on n'y est pas. Donc on ne peut pas ce savoir y être. Eh bien, moi, je l'ai articulé de ce côté-là. Je pense que le bénéfice que tirent beaucoup de gens de la psychanalyse, c'est que finalement, surtout si après ils en font leur profession, eh bien, c'est qu'ils apprennent à eux-mêmes savoir être là, à cette place de pure logique, pour que ça ait une efficacité pour celui qu'ils écoutent et qui ne se sait pas être là où il est. Hein? Donc je l'ai articulé par rapport à ça. Mais c'est sans doute réducteur, ça va, je pense, sans doute beaucoup plus loin. Hein? C'est un savoir très particulier. Hein? Il le compare à l'invention d'Aristote avec ses histoires de syllogisme. Aristote, qui n'est pas du tout embêté, c'est quand même le premier à avoir fait ça, pas du tout embêté par la logique des propositions, puisqu'il les réduit à des petites lettres, donc il n'est pas embêté par les effets de signification, etc., etc. Hein?
Colette ?
Oui, j'ai trois points que je voudrais évoquer. D'abord, c'est toujours utile ce que tu as fait au début de nous montrer qu'au fond, Lacan était très près de Freud. Hein, qu'il a collé au texte de Freud et donc et on peut toujours refaire la même démonstration avec n'importe quel exemple freudien et c'est utile à rappeler dans, surtout qu'il y a quand même des courants qui s'appellent freudiens pour dire qu'ils ne sont pas lacaniens, donc ça c'est tout à fait utile. Alors un mot sur la question du symbolisme tel que tu as rappelé comment Freud prend ça. Il y a des symboles déposés dans la culture, donc dans la langue, et avec l'exemple. Mais c'est tout à fait différent de la langue chez Lacan. C'est même antinomique. Parce que la langue dont parle Freud, qui fonde cette pensée à la fois collective et archaïque, parce que la forêt, c'est la mer pour tout le monde.
Ben, c'est ça.
Bon, alors, ça désigne la langue comme idiome. Hein? L'italien, le français, et dans chaque... ou le japonais, pour prendre une langue plus étrangère à nous, dans chaque idiome, il y a en effet des termes qui sont, on peut dire, non pas dans l'inconscient collectif, puisqu'il n'y a pas d'inconscient collectif, mais qui sont déposés dans la langue de chacun. Seulement, quand on parle de la langue, l'inconscient, la langue, c'est un inconscient strictement individuel. Ce n'est pas, il n'y a aucun symbole collectif dans l'inconscient comme langue. Donc là, on voit la ligne de dépassement qu'a fait Lacan quand il invoque la langue. Et sans doute, est-ce une des raisons pour laquelle il l'écrit en un mot, pour bien marquer que c'est pas la même chose. Oui. Alors sur la question de la logique, moi je trouve ça extrêmement compliqué. Et pourtant, il faudrait arriver à résoudre la complication, parce que sinon, l'invocation de la logique peut être parfaitement obscurantiste, en réalité. Hein. Parce que, au fond, première chose, est-ce qu'on dirait, quand Lacan évoque une articulation logique, c'est-à-dire une combinatoire, qui est censée être là, constituante de l'inconscient du sujet. Alors, je dis d'ailleurs, déjà, tout ça, ce n'est pas la langue, parce que dans la langue, il n'y a pas de logique, mais c'est l'inconscient langage. Hein. Quand il évoque cette combinatoire, on peut l'évoquer d'ailleurs comme, effectivement, comme un savoir réel, une combinatoire réelle, mais ça veut dire qu'elle serait déjà là. Alors, c'est le même problème que pour Newton. La formule de Newton, Lacan dit, inscrite dans le réel. Elle était dans le réel. C'est quand même Newton qui l'a trouvée. Mais elle était dans le réel. Alors, la preuve que l'on a qu'elle était dans le réel, Lacan revient toujours à ça, c'est qu'on va sur la Lune. avec la formule de Newton. Donc, ça nous fait un appui de preuve considérable. Alors, quel serait l'équivalent ? Est-ce que la combinatoire logique que Lacan suppose inscrite dans l'inconscient, et il écrit sa lettre volée avec tous les petits schémas pour nous le montrer, si elle est inscrite dans l'inconscient comme la formule de Newton, est-ce qu'il faut l'inventer ou la trouver ? C'est vraiment une question, c'est un peu la question peut-être que posait Patrick. Et puis, quel a été l'usage de la logique que Lacan a fait, finalement ? Il a recouru Lacan à une logique déjà inventée. Il a fabriqué des mathèmes, hein, mais il a recouru à une logique déjà inventée. Il a recouru à Aristote quand il pouvait, il a recouru à la logique mathématique, à la logique des ensembles. C'est une logique déjà inventée. Il n'a pas appris de l'expérience analytique. Il a recouru à cette logique pour penser l'expérience analytique, mais il n'a pas inventé à proprement parler. Et au fond, l'usage qu'il en fait, c'est très simple, c'est que c'est seulement avec la logique qu'on peut situer un impossible dans un champ de langage. Hein. La logique, c'est la science des impossibles du langage. Bon. Donc, on voit bien l'usage qu'il en a fait. Et en même temps, il a quand même fini par minorer cet aspect-là, disant, dans l'étourdi, début de l'étourdi, c'est la psychanalyse qui élève la logique à la science du réel, et disant aussi, sans la jouissance, sans la substance jouissante, il suffit de la logique mathématique, avec ses théorèmes d'incomplétude, d'inconsistance, d'indémontrable, etc. Il suffit de la logique mathématique pour faire superstition du scepticisme. Alors là, ça c'est très fort. Hein. Et donc, la logique science de l'impossible dans le langage, oui. La logique science du réel de la jouissance, non. C'est le contraire. C'est la psychanalyse qui donne de la substance à la logique. Hein. Alors, ces remarques que je fais qui me venaient en t'écoutant, n'empêchent que la question est qu'est-ce que l'analysant invente ? Je suis pas rétive à l'idée de parler. J'avais une fois écrit un article qui s'appelait L'analysant logique. Donc, il faut bien qu'il y ait un peu de logique chez l'analysant. Mais est-ce qu'il l'invente ou est-ce qu'il suit les lignes de dépôt, soit de la combinatoire de son langage, soit des éléments unaires de la langue qui l'ont marqué. Là-dessus, moi, je ne me précipiterai pas à conclure. Hein. J'ai vraiment une question. Oui, d'autant plus que si je fais le saut vers relancer l'invention de la psychanalyse, ça c'est un très très beau programme, sauf que ça ne se décide pas. Et donc, oui, tu peux le dire, il m'est arrivé de le dire aussi, donc je suis en sympathie complète, mais ça ne se décide pas, hein, c'est contingent les grands inventeurs. Je suis d'autant plus d'accord que même j'avais un peu par plaisanterie, en sachant que je ne convaincrais personne, j'avais à un moment dit à mes collègues qu'il faudrait poser une règle dans les séminaires d'école, interdire toute citation de Lacan. on serait au moins obligé de retraduire autrement. Enfin, ce n'est pas possible. Mais en plus, l'inconvénient, c'est que non seulement c'est répétitif, les citations, ça bouche le trou, mais en plus, Lacan a dit des choses qui, dans les formules, sont si contradictoires. Oui, oui. Tu vois bien, on invente le savoir et aussitôt, on n'a aucune peine à trouver un texte où Lacan dit, mais il ne faut rien inventer et le savoir, ça ne s'invente pas et la logique, ça ne s'invente pas.
Ce qui nous fait penser, parce que du coup, il nous fait beaucoup penser,
c'est que l'idée que je m'en fais, moi, de cette histoire de logique, c'est que quand on reprend, par exemple, des cas cliniques qu'on nous expose, moi je fais beaucoup ce genre de sport, il y a un moment, quand le cas est bien présenté, où quelque chose se dégage. Tout d'un coup, il y a un chemin qui apparaît avec des articulations qui ne sont pas forcées et qui fonctionnent.
Donc, tu les trouves.
On les trouve et elles sont là. Et si on les trouve, c'est parce que, à mon sens, on est à la bonne place.
On pousse à postuler qu'elles étaient là dans le réel.
Voilà. Mais bien sûr. Hein. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que le mieux, c'est de ne pas contrer cette logique-là. Et que la pente naturelle, c'est de la contrer, évidemment, avec nos savoirs déjà là, avec la somme de nos préjugés, etc., nos idées de ce qui est bien à faire et pas bien à faire, etc. Mais c'est sûr que le frayage, il est là. Moi, j'aime beaucoup ce terme de frayage. En fait, c'est un terme que Lacan est allé chercher chez Freud. Hein. C'est l'esquisse, le frayage. Hein. C'est époustouflant. Quoi, hein. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il y a un moment où la voie va, enfin, des connexions qui vont se faire et qui seront inscrites à tout jamais, et que là, l'inconscient, il passera par là. Hein. J'aime beaucoup ce petit jeu, cette petite blague que Lacan explique. Enfin, pour expliquer que l'inconscient, il faut qu'il passe par là, il n'a pas d'autre raison. Il dit, il raconte une histoire, c'est en plus une histoire tout à fait du style de celle que j'entendais dans mon enfance sur la frontière espagnole où il y avait de la contrebande tout le temps et on racontait des histoires de contrebandiers. Et celle-là, elle est délicieuse. C'est un contrebandier qui passe avec une valise dans laquelle il y a plein de bretelles. Et il a derrière lui une chèvre. Et le douanier dit au gars, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça le type, il dit, des bretelles, vous voyez bien. Ah bon? Et, oui, c'est pour ma chèvre. Comment, enfin, mais des bretelles? Ah, écoutez, elle aura ça ou rien. Donc, il utilise cette histoire absolument extraordinaire pour dire, l'inconscient, il aura ça ou rien. C'est-à-dire qu'il y a un frayage qui s'est fait et il faut en passer par là. Donc, on pourrait dire que l'invention pour un analysant, c'est de trouver la logique de ces frayages-là. Alors, bien sûr ils étaient là tout le temps, mais ils ne le savaient pas forcément. Hein. Alors, par rapport à ta première remarque, c'est sûr que je force un peu les choses pour faire surgir la langue chez Freud, alors que c'est pas tout à fait du même ordre. Mais c'est quand même, à mon sens, quelque chose qui a pu induire Lacan à s'intéresser à cette profondeur de la langue, et en tout cas, à ce qu'il a repéré très vite de ces deux niveaux d'articulation du signifiant, le premier qui articule simplement par rapport à l'opposé et l'autre qui est le signifiant qui représente le sujet pour un autre signifiant.
Oui, j'ai une question à Claire Duguay d'abord. À propos de l'hypothèse de Lacan, l'individu qui est le même que le sujet, l'individu affecté de l'inconscient est le même que le sujet. Est-ce que vous pourriez un peu, parce que je me suis posé la question évidemment, Est-ce que vous pourriez, de votre côté, un peu développer cette même-té ? C'est pas une même-té qui est de l'ordre de l'identité. Les deux ne se confondent pas. Justement, les deux, vous l'avez, tout votre texte l'a démontré. Vous avez décliné les deux versants de l'hypothèse. L'individu affecté côté corps, la langue, et sujet du signifiant, l'inconscient, chaîne. Mais comment les deux se raboutent ? Qu'est-ce que c'est que cette même-té ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Par exemple, est-ce que c'est l'envers et l'endroit qui sont la même face de la bande de Möbius, par exemple ? Est-ce que vous pourriez le représenter comme ça ? Vous voyez ma question ? Quant à Bernard Nominé, ça vous laissera peut-être le temps de... Bernard Nominé, à propos de... Pardon ? Non, justement, je... Bernard Nominé, oui, à propos de la langue, il y a deux remarques, une sur ce que tu disais de Freud, sur cette langue archaïque, avec les mots contradictoires. Tu n'as pas dit pourquoi le fait de rêver en sollicitant cette langue archaïque procurait un gain de plaisir immédiat. En quoi la langue archaïque serait plus jouissive dans Freud, d'après ce que tu as laissé entendre, que la langue articulée actuelle. Autre remarque sur cette histoire de la langue, il y a chez Freud d'autres références à la langue ou au jeu langagier, il y en a tout le temps. Mais la célèbre histoire du glance of the nose, glance on the nose, alors là, c'est pas du tout l'héritage déposé dans une langue idiomatique. Là, c'est vraiment la langue pour un sujet. Il y a des exemples chez Freud comme ça. Alors, c'est aussi sur la question de l'invention, évidemment, que je vais gratouiller, parce que c'est un peu comme la poésie, l'inconscient poète, l'invention, tout ça a quand même toujours une petite connotation de glorification. Être un inventeur, c'est quand même... c'est chic, quoi. C'est chic. Alors, effectivement, Patrick a posé la question... Quel rapport tu ferais entre ce que tu dis de l'invention, dont Lacan parle en effet, et ce dont Lacan parle aussi beaucoup, qui est un des mots qu'il utilise pour ce qui est déjà là, à savoir la marque. À savoir la marque trouvée, etc. Enfin, c'est un mot qui revient très souvent chez Lacan. Et là, qui n'est pas de l'ordre de l'invention, parce que l'invention, ça, qu'on le veuille ou non, ça suppose un inventeur. C'est très difficile de soutenir qu'on parle d'invention sans faire résonner l'idée qu'il y a un inventeur quelque part. Et votre discussion, là, surtout quand tu dis que l'invention doit respecter le trou, il y a vraiment un côté subjectivation, là. Quand tu dis que l'invention doit respecter le trou... oui, mais c'est...
Border le trou.
Oui, mais respecter et border, c'est pas pareil. Le respect, c'est une dimension subjective, quand même, massivement. Le respect. En revanche, par rapport à l'invention de savoir, je me suis du coup aperçu, là c'est une trouvaille pour moi, que inventer le savoir et contribuer au savoir, c'est pas du tout la même chose. Mais alors, pas du tout. On peut contribuer, Colette l'évoquait tout à l'heure, à l'obscurantisme, ou contribuer au savoir, plus ou moins déjà là. Y contribuer, ça veut dire le prendre au sérieux, le faire valoir, le faire raisonner, etc. Ça ne veut pas dire être un inventeur, nécessairement contribuer au savoir.
Ben oui, je suis embêtée parce que... l'individu qui est affecté de l'inconscient, la façon dont là Lacan, il me semble que là pour ça relève du corps au sens de l'organisme et affecté de l'inconscient langage. Là, il s'agit de celui-là, le même qui fait le sujet d'insignifiant. Là, on passe sur à partir du corps sujet à l'opération qui, via la substance jouissante, le signe va passer, voilà, le signifiant va passer au signe et ensuite au. Donc, c'est pas le même, évidemment. C'est hétérogène. Moi, le point que je vois, c'est du côté d'il y a quelque chose, le y a de l'un. Voilà. Alors, c'est vrai que. Sûrement avec la bande de Mébus ou les nœuds, il me semble qu'en tout cas Lacan l'a accroché comme ça après, et puis le par-lettre, il me semble que là il y a ce néologisme qui, il me semble, regroupe aussi les deux champs à la fois du sujet et de l'inconscient, parce que là justement c'est mais au niveau de cet extrait, moi, ce que je vois, c'est plutôt entre substance et insubstance, voilà, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, d'un côté, ça manque et de l'autre côté, ça jouit. Alors, c'est évident que c'est pas pareil. Et en même temps, c'est du signifiant. Et en même temps, voilà, ça parle, donc ça jouit. Et ça jouit, donc...
Colette, vous voulez...
Oui, c'est oui.
J'irai dans le même sens que vous, et Lacan le dit quasiment. Il dit, le signifiant en tant que support formel atteint un autre, c'est l'organisme. Que ce qu'il est tout crûment, lui comme signifiant, un autre qui l'affecte et qui en est fait sujet. Et après, et donc le signifiant devient signe de ce sujet. Et après, il revient, le sujet n'est jamais que ponctuel et évanouissant sujet que par un signifiant pour un autre. C'est la distinction qu'il manie depuis fort longtemps, mais qu'il ne reformule pas ici, mais qui est présente depuis très longtemps, l'opposition du sujet du signifiant et du sujet de la jouissance. Déjà, on trouve ça dans les quatre concepts fondamentaux, formulés comme ça. Le sujet du signifiant est le sujet supposé à la jouissance pulsionnelle. On trouve ça dans son introduction à la traduction de Schreber, disant qu'il a introduit à côté du signifiant le sujet de la jouissance. Et on trouve ça même à la limite dans d'autres textes, où il parle du sujet supposé au chiffrage de la jouissance. Bon, il y a donc beaucoup de textes où lui-même a donné ce dédoublement, c'est pas seulement pour l'inconscient, il y a beaucoup de dédoublements, où il emploie le même terme de sujet, pour désigner deux strates au fond de la structure. Disons que ça me paraît finalement une chose pas si nouvelle dans ce passage. Hein,
Je voulais tout d'abord en faire revenir sur la discussion de...
Non, mais attends, Carlos, c'est par rapport à cette question-là.
Oui, aussi, non, il y a les deux...
Parole à Bernard d'abord.
Non, donc il y a les deux, mais bon, je fais mes deux petites remarques. En fait, moi aussi, j'étais interpellé par la référence, en fait, à la question du corps et du sujet, puisque Lacan aussi, c'est vrai qu'on peut toujours trouver des occurrences, en fait, qui sont contradictoires. En fait, il utilise aussi, pour illustrer la question du sujet de l'inconscient, il utilise aussi la référence, justement, au sujet qu'on voit mieux, justement, quand le corps n'est plus là. Et il parle, en fait, justement, du tombeau, par exemple, dans cette... cette référence en fait du tombeau où le sujet en fait il existe justement quand le corps n'est plus là, et parce qu'il y a disons la marque en fait, hein, la trace. Mais je voulais revenir sur la question de l'invention de ce qui est trouvé, etc. Parce que quand on fait référence à Joyce, ils disent que Joyce, hein, ce qu'il a fait, c'est qu'on peut attendre de mieux en fait dans une analyse. Et donc, pour relancer un peu la discussion, je voulais poser la question, du coup, alors, est-ce que Joyce, lui, il a inventé quelque chose ou pas? Ou c'est juste une trouvaille? Voilà.
Je vais prendre le point soulevé par Marc à propos du Lust Gewinn, là, dans le fait du rêve. Je pense que Freud souligne qu'il y a une jouissance du non-sens. Ça va tout à fait avec tout ce qu'il a écrit dans le mot d'esprit. Il y a toute une rubrique des mots d'esprit qui sont des mots de pur non-sens, et il dit que c'est quelque chose qui rappelle beaucoup l'usage que les enfants peuvent faire du langage pour dire n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, c'est amusant parce que très souvent, les enfants parlent en contraire. Hein. Ils disent beau pour dire que c'est vilain, et ça les fait rire énormément. Hein. C'est un jeu maternel. Hein. On pourrait même aller penser au verlan. Hein. Prendre même un mot et le couper en deux pour les opposer. Donc je crois qu'il y a quelque chose là qui est dans le génie de la langue qui est fait pour jouir plus que pour communiquer. Je crois que c'est ça qu'il veut montrer. Maintenant, c'est sûr que ça nous oblige à repenser et à serrer les problèmes. Qu'est-ce que c'est que la jouissance du sens par rapport à ça ? Parce que ça ne la déprécie pas. Il y a aussi la jouissance du sens. Comment la jouissance du sens vient s'articuler à ça? Est-ce que la jouissance du sens efface tout de cette jouissance archaïque? Je ne le crois pas. Et il y a, dans le mot d'esprit, il y a justement toute une rubrique très intéressante où Freud montre qu'il peut y avoir du sens dans le non-sens. Hein, on peut allier les deux. Oui, mais dans...
Ce qui s'oppose, c'est le hors-sens.
Oui, bien sûr. Mais dans le sens... bien sûr, le non-sens, ça fait partie du sens. Mais dans la rubrique de Freud, il appelle ça « sens dans le non-sens ». Hein, du style, la blague du type qui... je ne sais plus comment ça se termine. Enfin, il plonge dans un bocal de mayonnaise. Enfin, un truc. C'est complètement déconnant, quoi. Hein. Ce que. L'invention, ça te chagrine. Mais c'est. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça étonnant de lire comme ça. Une définition que Lacan donne du savoir. Après tout, qu'est-ce que c'est le savoir? Et dit, blam, une invention. Donc moi, j'ai pris ça au sérieux. Je le développe comme ça. Je le développe comme ça. Mais je... Comment?
C'est Lacan, je pense que c'est l'invention du scientifique. En fait, dans les séminaires de même
du R. Oui.
De faire référence à la logique,
donc à oui.
Pour expliquer un peu comment on est arrivé au discours scientifique. En
par fait, des inventions, oui, vous avez raison.
En donnant le sens, c'est-à-dire par la réponse à la lettre. Et ensuite, dans le discours scientifique, et après il passe au discours scientifique, pour dire que, qu'en fait, c'est la trouvaille de la formule qui fait invention et qui fait même... Une référence à Newton, je pense qu'un
bon
lettre à quelqu'un d'autre. Et
oui.
Ça fait date de l'invention.
Non, c'est pas Newton, c'est Galilée. C'est un truc très curieux où Galilée a fait part de son invention à certains par des lettres et il rajoutait à ça des anagrammes, hein, pour que on puisse, enfin c'était un vrai chiffrage pour le coup, qu'on puisse dater le moment de son invention alors qu'il savait qu'il allait la renier, hein, parce que pour sauver sa peau il a dit non mais c'est, vous inquiétez pas, c'est le soleil qui tourne autour de la terre, soyez tranquille, hein. Oui. Oui, mais d'une écriture, c'est pas n'importe laquelle, hein, c'est une écriture logique, hein, c'est pas rien à voir avec la littérature. Bon, moi, ce que j'ai voulu articuler, parce que ça me semble quand même dans le sens de aller dans le sens de ce que Freud recommandait à l'analyste, oubliez tout ce que vous savez, c'est-à-dire que pour écouter un patient, si on se laisse prendre par la somme des savoirs que l'on a, etc., c'est plutôt un handicap. Donc, je pense que l'analyste et l'analysant, moi, je dirais, sont dans une position d'inventeur, mais ça ravale cette position. C'est bien sûr, c'est pas le professeur Nimbus, mais que chacun doit trouver sa solution et que sa solution, elle est écrite quelque part, elle n'est pas écrite dans les livres, hein, elle est écrite ailleurs et il s'agit de savoir la trouver, hein. Alors peut-être effectivement la trouver dans la marque, dans des choses comme ça, hein. Quant à contribuer au savoir, alors là il y a une référence très précise que j'aime beaucoup, de Lacan à un échange de courriers qui a eu lieu entre Pascal, Carcavi, Fermat, sur la cycloïde. Et Lacan dit que j'aimerais que les écoles de psychanalyse soient semblables à cette république de la cycloïde où on se préoccupait de choses absolument incroyables. Pourquoi ? Certainement pas pour acquérir du pouvoir ou des choses comme ça. Et il dit, ce qui s'est passé à ce moment-là, ça montre que le savoir, il se fabrique dans du lien social. Et donc là, c'est autre chose, bien sûr. C'est-à-dire que le savoir, par exemple, on pourrait penser que le savoir dans une école de psychanalyse n'est pas forcément de l'ordre d'un inventeur qui imposerait aux autres ses frayages, mais que le savoir se construit dans le lien social, comme ça, en se répondant les uns aux autres. Toi, tu as lu ça comme ça, moi, je le lis autrement. Voilà. Et il y a quelque chose de la contribution à ce savoir. Ça, c'est sûr que ce n'est pas de l'ordre de l'inventeur tout seul. L'inventeur tout seul, il peut être fou, hein, c'est pas exclu. Hein. Alors que ce savoir qui se gagne comme ça par du lien social, c'est autre chose. Un trouveur. Oui. Ah non, j'ai pas pensé. Tu la connais ? Oui. Oui, certainement. Et alors, c'est Inventus ? C'est quoi ? Oui. Oui.
La conscience s'est faite.
Oui.
Tu n'as plus d'inventaire à faire.
Bon. Alors, on va arrêter là. Je remercie les intervenants. Je vous donne rendez-vous le 16 mai et je vous invite à venir boire un verre dans la bibliothèque. Le 16 mai, c'est Nicolas Belriden et Patricia.
C'est dans le.
Ça y est, Patricia va te demander déjà.
Oui, c'est bon, bien sûr. Je m'en fichais, je te l'ai.